Donc ce soir, bonsoir, en ce 12 novembre 2018, on va faire le deuxième cours, la deuxième séance sur l'histoire de l'Église, et on va rentrer dans le cœur du sujet puisqu'on va s'intéresser à sa naissance. Et pour prendre un questionnement un peu polémique, certains disent que l'Église, finalement, ne serait rien d'autre qu'une secte qui a réussi. Et c'est pour ça qu'on doit la subir depuis 20 siècles. Mais elle n'a certainement pas les origines prestigieuses qu'on pourrait lui attribuer, même si c'est Jésus qui l'a fondée sur les 12 apôtres. En fait, on a un certain nombre de gens qui disent que ses origines sont obscures, voire inavouables. En tout cas, ça ne ressemble pas du tout à une institution fondée par un prétendu fils de Dieu qui serait venu pour sauver l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'un historien a à dire face à cela? Eh bien, il a à travailler, comme sur toutes les questions, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et donc, on va s'intéresser à la naissance de l'Église, à la naissance du christianisme et à sa diffusion dans l'Empire romain. Donc, je vais faire un parcours avec vous en empruntant ces deux parties, ces deux thèmes. Donc on va voir d'abord, on va étudier le premier siècle de notre ère, on va voir comment est né le christianisme, comment en particulier il est sorti de sa matrice juive, et ensuite on va s'intéresser à sa diffusion dans l'Empire romain au IIe siècle et au début du IIIe siècle. Alors c'est très lointain, il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est pas parce que vous ne savez rien l'histoire de l'Antiquité proche-orientale qu'on ne peut rien comprendre. En fait, on va surtout énoncer des faits et essayer d'ordonner ces faits, et vous vous rendrez compte qu'à l'arrivée, vous aurez un tableau d'ensemble sur la naissance et la diffusion du christianisme. Alors, on va commencer gentiment dans une première partie, en abordant la naissance tumultueuse du christianisme au 1er siècle. Comment est née l'Église, en fait? Alors, l'histoire du christianisme s'ouvre, l'histoire de l'Église s'ouvre sur une sorte de désastre, la mort de Jésus, le 7 avril de l'an 30. Pourtant, deux jours après, le troisième jour, ceux qui l'ont abandonné affirment qu'il est ressuscité. 50 jours après, c'est la Pentecôte. C'est le début d'un phénomène de prédication qui va engendrer les tout premiers baptêmes. Alors, voilà, on a une nouvelle réalité qui apparaît, l'Église, l'Ecclésia, et on va essayer de voir comment cela s'est passé au 1er siècle. Alors, pour le comprendre, je vous propose d'abord de nous pencher sur le judaïsme au 1er siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une matrice juive du christianisme de laquelle il s'est extrait progressivement. Donc on va essayer de comprendre cela. Alors faisons d'abord un petit retour sur l'histoire du peuple hébreu. Vous savez qu'en 356 avant Jésus-Christ, les Hébreux sont revenus de l'exil perse, en partie à Jérusalem, en partie aussi en se dispersant sur le pourtour méditerranéen, c'est le phénomène de diaspora. Ils ont subi l'influence hellénistique du fait des conquêtes d'Alexandre le Grand et de la constitution des royaumes hellénistiques par ses généraux. C'est retranscrit dans le livre des Maccabées. Et puis il y a eu la phase de conquête romaine avec Pompée en 65 avant Jésus-Christ. On a mis en place un royaume vassal en Galilée et en Samarie. On a fait de la Judée une province romaine et puis après, on a supprimé les deux protectorats, on a élargi la Judée et il n'y a plus de royaume d'Israël. Mais l'organisation religieuse, bien sûr, a subsisté et les Juifs adorent un Dieu unique, non représentable, dans le temple de Jérusalem, qui est le lieu de la présence mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple dans le Saint des Saints. Il y a une caste sacerdotale, un grand prêtre annuel, des lévites, un conseil qui s'appelle le Sanhédrin, et puis dans les villages de la Terre Sainte, et il y a des synagogues et il y a toute une diaspora dans le monde antique, avec des communautés juives éparpillées un peu partout. Et c'est pour cette diaspora, d'ailleurs, qu'on a été obligé de traduire la Torah en grec, donc de l'hébreu au grec, parce que beaucoup de juifs de la dispersion ne comprenaient plus l'hébreu. Et donc c'est la fameuse traduction des Septante au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 70 sages, dit-on, qui auraient travaillé chacun dans leur coin et qui auraient abouti à la même traduction. En tout cas, vous voyez qu'au niveau culturel, linguistique, les Juifs se sont en partie hellénisés. On peut rajouter encore, pour avoir une toute petite idée, hein, c'est bien modeste, que le judaïsme est prosélyte à l'époque, donc on peut se convertir au judaïsme et il y a un mouvement pour attirer des non-juifs vers le judaïsme. Et on verra, en évoquant les Actes des Apôtres, tel ou tel personnage qui est devenu juif avant de devenir chrétien. Alors ce judaïsme est traversé par différents courants au temps de Jésus. Je vais les énumérer rapidement, parce qu'on les connaît en général. Alors commençons par les Samaritains, que nous connaissons tous à cause de l'épisode évangélique de la Samaritaine, qui ont un sanctuaire à part sur le mont Garizim, donc qui se sont coupés du temple de Jérusalem. Ensuite, les Sadducéens, qui s'en tiennent à une explication littérale de la Bible et qui sont surtout connus pour un refus de la résurrection de la chair et qui ont tendance à ne pas trop mal s'accommoder de la domination romaine. Ceux que nous connaissons le mieux, ce sont les pharisiens, les Perushim, les séparés, qui eux refusent l'occupation romaine, mais qui ne tombent pas dans la violence pour autant. Et comme on les connaît assez bien dans les évangiles, dont ils sont le grand protagoniste, hein, ils sont souvent des interlocuteurs de Jésus, on sait très bien qu'ils sont très attachés à commenter la loi, aux observances rituelles, liturgiques, qu'ils évitent l'impureté, qu'ils observent le Shabbat. Ce sont des juifs pieux. Citons deux autres groupes. D'abord, les Esséniens, que nous connaissons beaucoup mieux depuis que sur les contreforts de la mer Morte, dans les falaises à Qumran, on a découvert en 1947, non seulement un site, mais aussi dans des grottes, des jarres contenant leur bibliothèque, en fait, et donc avec des rouleaux qui sont présentés aujourd'hui à Jérusalem, qui sont très impressionnants. Alors j'en avais un petit peu parlé, je crois, la dernière fois. On a là un trésor qui manifeste, en passant, le fait que on n'a pas trafiqué les écritures, hein, puisque ces documents sont restés dans leur jarre pendant 2000 ans, et si on les compare avec nos textes actuels, on n'a pas trafiqué. Alors, qui sont les Esséniens ? Parce que sur eux, on a raconté tout et n'importe quoi. Ce sont des juifs pieux, très critiques à l'égard des grands prêtres de Jérusalem, qui se sont retirés au désert et qui y mènent une vie de prière et de travail, qui vivent notamment le partage des biens, qui prennent des repas communautaires, et qui ont été fondés par un personnage dont on ignore le nom, mais qui est appelé, dans les documents qu'on a retrouvés, le maître de justice, et qui a été tué tragiquement. Ils vivent, quant à eux, dans la douleur, l'occupation romaine, et ils vivent d'une attente messianique, un messie chez eux qui est perçu comme souffrant. Cinquième groupe, les Zélotes. Les Zélotes, eux, espèrent un retour à l'indépendance d'Israël et n'hésitent pas à faire usage de la violence. Zélos, c'est le soin, la jalousie. Ils sont pieux, patriotes, fanatiques, parfois, et ils attendent un messie religieux et politique. Ils ont été fondés au début de notre ère par un personnage qui s'appelait Judas le Galiléen, qui a fomenté une révolte en Judée, qui a été écrasée, et après laquelle ils ont basculé dans la clandestinité, n'hésitant pas à commettre des actes violents, par exemple des assassinats. Et il cherche tout au long du 1er siècle à entraîner les Juifs dans une révolte générale contre les Romains. Et nous savons que parmi les apôtres, il y a au moins un zélote, il y a Simon, puisque c'est son surnom, mais peut-être que tel ou tel autre apôtre, de par son nom, l'était aussi. Par exemple, on l'a dit peut-être de Judas Iscariote, Sicaire, hein, celui qui porte une arme blanche. Voilà, on ne sait pas trop. Parfois, on a dit ça de Pierre aussi. Mais bon. En tout cas, le judaïsme, au temps de Jésus, est traversé, quels que soient ses courants, par une attente messianique. Un messie qui a quatre caractéristiques. Il est roi, prêtre, prophète, et il porte aussi le titre mystérieux de fils de l'homme. Et vous savez, hein, dans le livre de l'Ancien Testament dans lequel il y a cette vision, le fils de l'homme qu'on voit, plutôt un personnage divin qui est décrit. Un messie paradoxal, à la fois royal et souffrant. C'est dans ce contexte qu'il faut lire, je crois, la naissance de l'Église, et notamment, évidemment, à Jérusalem, et évoquer la première communauté. Donc l'Église en tant que telle commence à se manifester à l'extérieur au moment de la Pentecôte, qui nous est racontée dans les Actes, comme à peu près tout ce que je vais évoquer dans ma première partie. Et au moment de la Pentecôte, remplis de l'Esprit-Saint, les apôtres se mettent à annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, chez les Juifs de Palestine. Ce qui va d'ailleurs provoquer très rapidement des affrontements avec le Sanhédrin. Mais ils vont connaître un certain succès. Notons parmi eux qu'il y a des Juifs de langue grecque, des Juifs de la diaspora. C'est eux qu'on appelle les hellénistes. Je ne sais pas qu'ils fassent beaucoup de grec à l'école, hein, mais voilà, c'est des Juifs de langue grecque. Et ce sont ces hellénistes qui ont réclamé la nomination de responsables de soins pour les pauvres, et c'est ainsi qu'on a nommé les fameux sept diacres, dont Étienne. Étienne qui est donc un helléniste, un Juif de langue grecque, devenu chrétien bien sûr. Étienne qui est lapidé et qui est le premier martyr, le premier témoin de la foi chrétienne jusqu'au don de sa propre vie. Mais après cet épisode de la lapidation d'Étienne, les hellénistes doivent quitter la ville et du coup, ils se séparent du temple. Ça se passe vers l'an 36 ou 37 de notre ère. On a donc les juifs, les chrétiens de langue d'origine helléniste, si vous voulez, qui sont partis. Ceux qui sont restés sont persécutés. Et notamment le chef de la communauté de Jérusalem, Jacques, frère de Jean, est décapité. Pierre, quant à lui, est arrêté en 44, il s'évade, et il devient un véritable missionnaire en dehors de Jérusalem, tandis que l'autre Jacques, le frère du Seigneur, comme dit l'Écriture, va lui diriger la communauté. Autour de lui, il y a des presbytres, les anciens, et Jacques prend des allures de surveillant, qu'on traduit en grec par épiscope, qui va donner évêque. Jacques, frère du Seigneur, chef de la communauté de Jérusalem, fait montre d'une fidélité intransigeante à la loi de Moïse, et ça lui sert de base, et il n'accepte que quelques accommodements pour les convertis. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on va voir qu'entre les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive, et les pagano-chrétiens, les chrétiens d'origine païenne, il va y avoir de la tension, mais il va y avoir quelque chose d'essentiel du christianisme qui va se dire dans cette tension entre les deux, dans la façon dont cette tension sera résolue. Donc j'attire votre attention dès maintenant là-dessus. Alors, une partie des chrétiens a donc dû évacuer Jérusalem sous peine d'y laisser sa peau et ne va pas prendre ses quartiers au bord de la mer. Il ne va pas prendre de vacances, au contraire, ils vont lancer des missions dans les villes de la côte méditerranéenne, des villes peuplées souvent de Grecs païens. Ils vont aller sur la côte, et donc c'est là que nous allons retrouver Paul, Pierre et leurs compagnons. Et donc, on va assister aux premières conversions de païens au christianisme. La première conversion, elle est l'œuvre du diacre Philippe sur la personne de l'eunuque d'origine éthiopienne. Alors, on fait rarement attention, hein. Ça s'est passé près de Gaza. C'est un eunuque prosélyte d'origine éthiopienne, donc un eunuque devenu juif. Et vous savez, il revient du temple de Jérusalem, il revient de son pèlerinage, et il est en train de lire Isaïe. Et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il lui explique, on peut supposer que c'est le serviteur souffrant d'ailleurs qui lui explique dans Isaïe. Et donc, il le baptise sur le champ. Alors, l'évangélisation connaît ses premiers résultats en Transjordanie, donc au-delà du Jourdain, en Samarie, en Galilée au nord, en Phénicie plus au nord, à Damas, reste, et plus au nord, à Antioche. Et Antioche va être le lieu de la principale église. Et c'est là que, pour la première fois, les chrétiens vont être appelés ainsi, les Christianoi. Antioche, c'est la base de Pierre pour ses déplacements missionnaires. À Antioche, d'ailleurs, on va retrouver les deux communautés chrétiennes, l'une d'origine juive et l'autre d'origine païenne. Alors, on a vraiment deux communautés qui célèbrent en commun le repas eucharistique et qui sont en tension, pas seulement parce qu'ils sont d'origine différente, mais parce que les zélotes essaient de les récupérer pour fomenter une révolte. Et puis vous savez que dans cette communauté, il va y avoir la question de la circoncision, la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, qui vont être des questions très importantes. Et donc derrière, il y a une question théologique, c'est est-ce que tous les hommes sont appelés à la foi, hein ? Voilà. En tout cas, on a des questions qui se posent déjà. Et d'ailleurs, la communauté d'Antioche enverra Paul, Barnabé et Tite à Jérusalem poser la question de la circoncision aux apôtres, qui répondront sans y répondre. Hein, c'est ce qu'on appelle dans les actes le concile de Jérusalem. On décide que la mission de Pierre concerne les circoncis, celle de Paul les incirconcis, mais en fait, on ne résout pas vraiment le problème entre les deux communautés. Parce que, voilà, on n'a pas répondu à l'essentiel de la question, mais on veut simplement empêcher les judéo-chrétiens de revenir au judaïsme sous la pression des zélotes. Voilà, donc on va retrouver des tensions, je vous renvoie à la lecture des actes, en fait, hein, sur la consommation des viandes d'animaux sacrifiées par les païens. Jacques, qui dirige la communauté de Jérusalem, est partisan d'un judaïsme purifié et réformé, tandis que Paul pense que le compromis est dépassé parce que le Christ a libéré les hommes de l'esclavage de la loi. Jacques est lapidé en 62, et puis en 66 a lieu la fameuse révolte juive contre le pouvoir romain. Et donc, la communauté chrétienne doit d'urgence quitter Jérusalem et se réfugie dans la décapole à Pella. Et Pella, on avait évoqué ce lieu parce qu'on sait que là-bas, des objets de la Passion ont été emportés. C'est donc la fin de la première église de Jérusalem. C'est donc aussi, quelque part, l'isolement programmé du judéo-christianisme, on le redira. Et pendant ce temps, les missions de Pierre continuent, dans le nord de l'Asie mineure, dans le pont, donc sur le passage de l'Asie à l'Europe, bientôt, en Cappadoce, à Corinthe, à Rome. Pierre, c'est Képhas, c'est le roc, et l'homme de la voie moyenne entre les différentes tendances. Alors, parmi ces tendances, il y a évidemment celle de Paul. Paul et Pierre, quand on les compare, évidemment, ce sont les deux colonnes de l'Église, tous les deux martyrisés à Rome, mais évidemment, n'ont pas tout à fait la même origine. Paul est beaucoup plus théologien. C'est un juif de la diaspora. Il est originaire de Tarse, en Cilicie, dans le sud de l'Asie mineure. Il est citoyen romain, il le fera valoir à un certain moment. Et il a été élevé dans la plus pure tradition pharisienne en milieu hellénistique. Il a été disciple de Gamaliel, un des plus prestigieux maîtres en Israël en ce temps-là. Il a participé à la persécution des premiers chrétiens de façon particulièrement zélée, il le dit lui-même. On l'a vu au moment du martyr d'Étienne. Et puis, il était sur le chemin de Damas pour aller arrêter les chrétiens de là-bas, quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Il est mystique, théologien, thaumaturge, prophète. Il respecte les colonnes de l'Église, mais il cherche à connaître Dieu sans médiation de la loi, en face à face. Quand il arrive pour annoncer la bonne nouvelle quelque part, il se tourne systématiquement vers les Juifs, puis vers les païens. Et quand il rencontre les païens, il emploie certaines de leurs convictions et une partie de leur vocabulaire. C'est ce qu'il fait à Athènes, hein, Athéniens, je vois que vous êtes les plus religieux de tous les hommes. En parcourant votre cité, j'ai vu des édifices dédiés à tous les dieux possibles, même un édifice dédié au dieu inconnu. Eh bien, ce dieu inconnu, je viens vous le faire connaître. Alors, l'Aréopage l'écoute de façon très intéressée, jusqu'au moment où il leur parle de résurrection de la chair. Alors là, ils s'en vont tous prendre l'apéro. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois, parce que dans la mentalité grecque, la résurrection des corps, c'est de la blague. Alors, il a été envoyé en mission par l'église d'Antioche à plusieurs reprises, et il a fait ses fameux voyages. Son premier voyage l'a conduit à Chypre, en Pamphylie, en Pisidie, dans le sud de la Galatie, en Asie mineure, où il a fondé 4 communautés. Son deuxième voyage l'a conduit dans les mêmes villes, puis il est passé en Europe après une vision à Troas, et il est descendu jusqu'à Philippe, Thessalonique, Athènes et Corinthe. À Corinthe, on sait qu'en 52, le proconsul romain Gallion a refusé toute plainte des Juifs contre lui. Il est revenu à Jérusalem et Antioche, c'est le moment du concile de Jérusalem. Il a fait un troisième voyage, il revisite les communautés qu'il a fondées, il consolide ses fondations, et ces fondations, il les chérit, et c'est pour ça qu'il leur écrit, hein, et qu'on a ses épîtres pastorales, et que de temps en temps, il est obligé de taper du poing sur la table, comme avec les Corinthiens, qui font des folies de leur corps et de leur âme. Alors, et puis, au travers de ces épîtres, on voit tous les dangers, les épreuves qu'il a pu traverser, les persécutions, les coups, les querelles qu'il a dû essayer de résoudre, hein, qui est à Pierre, qui est à Paulos, qui est à Paul, etc. Donc on a, vous voyez, on parcourt les années 30, 40, 50, on a une église qui est en train de se répandre à partir de Jérusalem et d'Antioche, à travers différents apôtres et leurs compagnons. On en arrive aux années 60, et c'est comme au XXe siècle, il y a une crise dans les années 60. C'est pas tout à fait du même ordre. Alors, Paul revient à Jérusalem fort de 12 églises locales fondées par lui. Il est arrêté par les Romains, il est accusé par les Juifs d'être un fauteur de troubles. Devant le Sanhédrin, il joue habilement de la division entre Sadducéens et Pharisiens. Les Zélotes tentent de l'assassiner, par ailleurs. Et donc le tribun se dit que ce serait quand même mieux de le transférer à Césarée, ce serait plus sûr. Il y reste en prison pendant 2 ans, et il commence à s'impatienter. Et donc il fait appel au tribunal de l'empereur à Rome, ce qu'il peut faire puisqu'il est citoyen romain. Et donc, il va être transféré en mer. Pas de chance, son bateau fait naufrage à Malte. Et il se retrouve à Rome, en liberté surveillée, avant que soit prononcé un non-lieu à son sujet. C'est alors que survient l'incendie de Rome en 64, dont nous avons parlé la dernière fois. Après les persécutions qui suivent cet incendie, hein, au temps de Néron, Pierre périt dans le cirque du Vatican, et Paul est sans doute arrêté après et décapité sur la voie romaine d'Ostie en 67. Donc ça chauffe pour les chrétiens, leurs principaux apôtres ont été mis à mort. Du côté des juifs, il faut dire aussi qu'il y a du mouvement dans les années 60. Pourquoi ? Parce que en 66 éclate la grande révolte juive, donc les Zélotes ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, qui chasse les troupes romaines de Jérusalem, les Romains se réorganisent, et en 70, Titus prend Jérusalem, la population est massacrée, le temple est rasé. En 73, ils prennent Massada, c'est avec les derniers défenseurs se suicident, hein. Et donc la catastrophe par excellence qui s'est produite, c'est la destruction du temple, le lieu où Dieu habite au milieu des hommes. Il n'en reste rien. Et donc, cette catastrophe, avec un énorme C, fait désormais reposer ce qui reste du judaïsme sur la diaspora. Les Sadducéens et les Esséniens ont été balayés par tout ça. Et les pharisiens s'expatrient puisque le culte sacrificiel et le temple n'existent plus. Et donc le judaïsme va devoir se réorganiser avec une réforme pharisienne. Et se réorganisant, il va se replier sur lui-même. On va voir les chrétiens exclus des synagogues où ils pouvaient prier jusque-là. On va voir les juifs rejeter la Septante qui est pourtant le travail de traduction de la communauté juive elle-même. Donc vous voyez ce repli un peu cultuel et culturel. Mais du côté des chrétiens, la crise est très grave, puisque les principaux chefs ont été martyrisés, les communautés ont été dispersées, et nos judéo-chrétiens se déplacent vers l'Orient syrien, palestinien et arabe. Et il y a un étonnement qui parcourt tout le monde parce que ces désastres n'ont pas entraîné la fin du monde. C'est vrai. Quand même, on a assisté à des événements hallucinants, notamment la destruction du temple, et le Seigneur n'est pas revenu. Alors, nul ne connaît le jour ni l'heure, mais quand même, on s'est dit que ça devait ressembler à la dernière. Voilà. C'est le moment aussi, on l'avait dit la dernière fois, où on a mis par écrit l'Évangile, les Évangiles. Voilà. Vers l'an 100, en tout cas, donc à la fin du 1er siècle de notre ère, trois groupes religieux sont sortis de la matrice juive. La communauté pharisienne de la diaspora, donc les juifs, les communautés judéo-chrétiennes, dont l'une finit par revenir à Jérusalem quand ça s'est calmé, et les communautés chrétiennes, animées en particulier au départ par Pierre et par Paul, en Asie, Asie ça veut dire Asie mineure, en Grèce et à Rome. Donc, pour conclure sur ce premier siècle, on a un christianisme naissant à partir de la matrice juive. Mais c'est une naissance difficile, si vous voulez. On a un christianisme qui est à la fois issu de l'espérance messianique juive, politique et religieuse, et de l'affirmation d'un Jésus ressuscité en son corps, sans qu'il soit pour autant le libérateur politique d'Israël. Il y a eu différents moments de rupture entre chrétiens et juifs, avec notamment le martyre d'Étienne, la mort de Jacques, la fuite de Pierre, le martyre de l'autre Jacques, et le martyr de Pierre et Paul en 65 et 67, parce que d'aucuns prétendent que derrière la mort de tel ou tel, il y a des dénonciations. Alors, ça fait partie des hypothèses, mais bon. En tout cas, ces ruptures accélèrent, si besoin était, la mission auprès des païens. On a vu aussi les conflits entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens, conflits mal résolus par le Concile de Jérusalem. Et puis, le judéo-christianisme va devenir minoritaire, le prosélytisme juif diminue et celui des chrétiens augmente, et donc le christianisme, autour de l'an 100, est vraiment très visiblement sorti de sa matrice juive. Et donc, à ce moment-là, le christianisme, il a déjà commencé en réalité, mais pédagogiquement c'est plus simple de distinguer, le christianisme va affronter une autre civilisation, la civilisation romaine, pour s'y développer. Et donc, dans cette deuxième partie, je vous propose de nous intéresser à l'expansion du christianisme dans l'Empire romain entre le IIe siècle et le début du IIIe. Alors peut-être que vous n'êtes pas complètement au point sur votre histoire romaine, alors je fais un petit rappel historique d'abord. Donc on est sous l'Empire, on a deux dynasties pour la période qui nous intéresse, les Antonins de 96 à 192, et puis les Sévères, de 193 à 325. C'est vraiment l'apogée de l'Empire romain parce que c'est par excellence une période de paix, de prospérité, qui va permettre l'expansion du christianisme dans des conditions plutôt pas trop difficiles, allons-nous dire, mais aussi dans un contexte de crise religieuse dans le monde païen. Et je vais expliquer ça. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce monde païen ? Quelle est la foi des gens dans le monde romain au 1er, 2e siècle de notre ère ? Alors, les historiens parlent davantage des paganismes que du paganisme, parce qu'il y a différents courants, mouvements en action. Il y a bien sûr d'abord l'antique religion romaine. Rome, quand on parle de Rome, la Rome antique, c'est, on désigne une ville, mais on désigne une civilisation attaché au nom d'une cité, et quelle cité ? La cité, la civilisation de la cité et du citoyen. On y croit, comme dans les grandes cités antiques, que les dieux ont fondé les institutions, le culte domestique et les cérémonies qui consolident chaque cité. D'ailleurs, Cicéron considère que les Romains constituent le peuple le plus religieux de tous les peuples, le peuple parvenu, par la protection des dieux, à l'empire du monde. Et la terre devient une immense ville dédiée, en fait, à la joie de vivre. Parce que la civilisation romaine, c'est aussi une civilisation du bonheur. Intéressons-nous aux vestiges que les Romains nous ont laissés. Ils nous ont laissé des amphithéâtres, des cirques, des théâtres, des odéons, des forums, des thermes. On a un art de vivre romain par excellence. Et donc Rome est éternelle, et tout cela repose sur la religion romaine ancienne, avec le temple de Jupiter Capitolin, le temple de Vesta, où les Vestales entretiennent le feu de la cité. L'empereur est grand prêtre, il est Pontifex Maximus, et les magistrats, comme dans toutes les cités antiques, sont membres des collèges sacerdotaux. On a donc, au temps de l'Empire en particulier, une religion d'État où politique et croyance sont confondues. Pourtant, dans cet édifice qui a l'air assez statique, vivant, prospère, il y a une faille, une fracture, liée à l'influence de la pensée grecque d'ailleurs, à l'influence hellénistique. On appelle ça l'incroyance hellénistique. De quoi s'agit-il ? En fait, plus le temps passe, plus on considère que les dieux sont extérieurs aux hommes. Et la piété ne consiste pas du tout à avoir une relation intime, ou comme disait sainte Thérèse d'Avila, un commerce intime d'amitié avec Dieu ou avec le Christ. Ce n'est pas une relation. C'est pour ça que d'ailleurs, il est plus intelligent de parler de croyance, je crois. On a, dans la piété romaine, l'idée de rendre un culte qui soit agréable aux dieux, mais où il n'est pas du tout question de sentiments, de psychologie, de voilà, d'intériorité. On est dans le do ou des. Je donne, je fais pour que tu donnes. L'idée, c'est juste par un rituel qu'il faut respecter à la lettre, d'obtenir la paix des dieux, la pax deorum. Et à bien des égards, ça ressemble en fait à un art de forcer la main aux dieux. Alors, comme disent beaucoup d'auteurs, on respecte les formes religieuses extérieures, visibles, le culte, le rituel, mais on n'y croit guère. Et on trouve ça chez des auteurs grecs en particulier. Alors, il y a une sorte de vide qui s'ouvre, et pour essayer de le masquer, de le combler, les Romains vont avoir recours à l'acceptation de tous les dieux des peuples soumis. On va appeler ça l'interpretatio romana. Donc on va essayer d'assimiler les cultes de tous les peuples, surtout tous les peuples qu'on a conquis. Tout homme a le droit d'honorer ses dieux ancestraux, les dix patries, les dieux des pères. Et d'ailleurs, dans ce contexte, il n'y a que les chrétiens qui soient athées, parce qu'ils ont abandonné leur dieu d'origine pour en adorer un nouveau. Et donc, l'interprétatio romana, c'est un procédé de romanisation artificielle qui va couvrir tout ce qui existe en termes religieux, y compris tout ce qui peut sacraliser les forces de la nature, les forces de la terre, animales, sexuelles. Voilà, ça va donner le paganisme tel que le concevront les chrétiens quand ils auront évangélisé les villes plus tard. Parce qu'on va retrouver un peu tout ce paganisme dans les campagnes d'Occident. Quatrième élément, le culte impérial. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, la République a été transformée en empire avec Octave Auguste, et ça revêt une dimension religieuse extrêmement importante. Parce qu'il va y avoir un culte impérial qui va se développer, un culte qui va se vouloir rassembleur et unificateur. Ça nous vient de certaines croyances des royaumes orientaux et hellénistiques, et ça repose sur la persuasion intime que le roi, chef de guerre, favorisé par les dieux qui lui donnent la victoire, apporte la paix et la prospérité. Et donc la victoire est attachée à l'empereur et elle va permettre le début de ce que l'on appelle un âge d'or. Et donc on vénère la victoire qui est à la fois une divinité et la vertu du prince. On va la statuer, on va la graver sur les pièces. Et il y a même une statue de la victoire à la Curie, à Rome, avec un autel, du feu et de l'encens pour observer le rituel. Et depuis César, l'empereur est proclamé Divus, l'homme devenu Dieu. Et donc se développe un culte impérial civique qui va avoir tendance à tout absorber, alors faisant un gros anachronisme, en disant qu'il va devenir un peu totalitaire. Il y a un cinquième mouvement après religion romaine, incroyance hellénistique, interprétation romana et culte impérial, c'est la nouvelle religiosité païenne. Au 2e, 3e siècle, il y a un mouvement qui apparaît aussi dans dans la vie religieuse de l'Antiquité, du domaine qui nous intéresse. C'est un désir de salut. La phase d'incroyance hellénistique a tendance à s'effacer au profit de religions orientales qui font la promotion d'un désir d'atteindre une vérité, un certain bonheur, parfois le salut après la mort, et qui appellent à des conversions ou des initiations ou de la connaissance. Et donc, que ce soit le culte de Cybèle, qui lui est plutôt orgiastique, que ce soit le culte d'Isis et d'Osiris, ou que ce soit surtout, pour parler d'un culte moins connu et pourtant très important, le culte de Mithra, qui repose sur la croyance en un sacrifice purificateur du taureau par Mithra, qui apporte ainsi aux hommes le salut en fonction d'une pratique stricte des vertus morales. Alors, ce culte sacrificiel et exigeant moralement aura beaucoup de succès chez les militaires. À Rome, telle ou telle basilique sont fondées sur d'anciens sanctuaires, d'ailleurs dédiés au culte de Mithra, hein, où on fait le fameux taureau-bol, hein, l'immolation du taureau. Et dans cet ensemble de religions d'origine orientale, qui expriment chacune à leur façon un désir de salut, il y a le judaïsme, il y a le christianisme naissant, et au-delà même, on pourrait parler même de l'astrologie et de la magie qui vont avoir tendance à se répandre. En tout cas, on croit de plus en plus à l'immortalité de l'âme séparée du corps, en une divinité unique porteuse de salut, en une initiation transformatrice. En réalité, vous comprenez qu'à ce moment-là, tous ces mouvements, et surtout le dernier, dans le monde romain et un peu au-delà, va faire le lit du christianisme. Puisque le christianisme va apporter une réponse à bon nombre d'aspirations des gens de cette époque. Alors, abordons l'expansion du christianisme. De nouvelles églises sont fondées. C'est pas qu'il y ait une organisation systématique de l'évangélisation comme ce sera le cas beaucoup plus tard avec des missionnaires partis ici ou là. Ça passe par les gens qui circulent, les marins, les marchands, les esclaves, les soldats. Des communautés urbaines sont créées à partir de Césarée, d'Antioche ou de Corinthe. Et à la fin du IIe siècle, presque toutes les villes grecques connaissent les chrétiens. En Asie mineure, en Bithynie, sur la mer Noire, sur l'Euphrate, avec le royaume d'Édesse, vous vous souvenez, c'est à Édesse qu'on avait caché le linceul dans le rempart, hein. C'est pas pour rien, puisqu'on a un roi qui s'est fait chrétien, le roi Abgar IX, qui a régné entre 179 et 186. On retrouve des communautés chrétiennes sur le Tigre, et de l'autre côté en Grèce, et dans l'Occident latin. D'ailleurs, dans l'Occident latin, on a des missionnaires qui sont venus d'Asie, jusque chez nous, en Gaule, à Vienne, dans la vallée du Rhône, à Lyon. Irénée, par exemple, Irénée de Lyon, est un grec venu de Smyrne. Et vous savez qu'il y a une filiation, Irénée est disciple de Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de Saint Jean. Et donc, par Lyon, on a une filiation directe avec le disciple que Jésus aimait, si vous voulez. Et donc, on sera très attentif à l'œuvre de saint Irénée, puisqu'elle va avoir quelque chose de joannique, évidemment. Et je crois que c'est très important aussi, pour comprendre comment a fonctionné la naissance de l'Église et sa diffusion, de voir le lien direct, et il me semble que celui-ci est particulièrement intéressant. Évidemment, il y a Rome, mais Lyon, c'est pas mal non plus. Et je ne suis pas lyonnais. Voilà. En tout cas, voilà pour chez nous. En Afrique, on a des communautés de langue latine, et donc on a des minorités urbaines qui vont s'exprimer dans trois langues, le grec, le latin et le syro-araméen, qu'on oublie souvent, mais pourtant c'est essentiel, qu'on appellera bientôt le syriaque. On peut aussi noter qu'en Égypte, les chrétiens se dotent d'une écriture spécifique qui est le copte. Quelles sont les méthodes d'évangélisation ? Les premiers touchés sont les esclaves et les affranchis, semble-t-il, mais après, ça va transpercer toute l'échelle sociale jusqu'à toucher l'entourage impérial. Par exemple, une concubine de l'empereur Commode, qui portait très mal son nom, qui s'appelait Marcia, est qualifiée de Philothéa. Et derrière ce qualificatif, on a pensé qu'elle était peut-être chrétienne. En tout cas, l'élite du monde romain, les sénateurs, n'ont que mépris pour ce qu'ils considèrent comme des fariboles. Où l'empereur Marc Aurèle, qui a écrit et parlé sur les chrétiens, a dit tout le mal qu'il en pensait. En même temps, toujours dans les méthodes d'évangélisation, On voit apparaître des écrivains chrétiens au IIe siècle. Des vrais écrivains, pour faire un autre anachronisme, des intellectuels. Ça veut dire que certains milieux savants sont touchés. Très souvent, d'ailleurs, l'enseignement chrétien se fait de manière ouverte. À la fin du IIe siècle, on sait que l'enseignement de la foi se fait par étapes avant le baptême. Les païens sont étonnés ou scandalisés, comme Sels, qui écrit un ouvrage qu'on a conservé contre les chrétiens. Ils sont scandalisés ou étonnés par le succès du christianisme dans toutes les couches sociales, sans aucune clandestinité. Alors, dans ce cadre, quelle est l'attitude de l'État romain face aux chrétiens? Dans l'opinion, il y a de l'indifférence, de l'attrait pour ceux qui se convertissent, ou de l'hostilité. Et les empereurs, quand des problèmes se posent par rapport aux chrétiens, sont un peu embarrassés. On peut faire ici état de la correspondance entre Trajan et Pline le Jeune qu'on avait évoqué la dernière fois. Il y a des problèmes, vous vous souvenez, en Bithynie, hein, sur la rive sud de la mer Noire, parce que les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux et n'achètent plus la viande des animaux sacrifiés. Vous vous souvenez, Pline le Jeune avait fait torturer des diaconesses pour savoir ce qu'ils avaient dans le ventre au sens propre et au sens figuré. Et on avait lu qu'il n'y avait discerné là qu'une superstition. Bon. En tout cas, ça a des enjeux économiques. Hein. Trajan, en tout cas, répond à Pline le Jeune qu'il ne faut point rechercher les chrétiens. Seuls ceux qui seront dénoncés et convaincus de christianisme et qui n'auront pas sacrifié seront condamnés et les autres pardonnés. L'empereur Adrien, lui, explique ceci. Il explique que les habitants de la province où les chrétiens posent problème doivent faire une pétition et prouver que ces chrétiens agissent contrairement aux lois. Et donc existe seul pour le moment un délit contre l'ordre public. Autrement dit, le christianisme est considéré comme un délit, mais la paix publique importe davantage. Donc, ils n'ont pas spécialement envie de s'en occuper. D'ailleurs, le juge, quand on lui soumet finalement une pétition avec suffisamment de signataires et qui a quelques crédibilités, le juge doit s'efforcer de faire abjurer l'accusé afin d'éviter que le sang coule. Mais cette jurisprudence autorise aussi la dénonciation. Et donc il y a sur les chrétiens une menace permanente et imprévisible, une épée de Damoclès. Pourtant, ils sont très respectueux de l'État romain, ils pratiquent le « rendez à César ce qui est à César » et ils prient pour les autorités publiques. Et donc ils ne vont pas échapper aux persécutions, des persécutions essentiellement populaires et sporadiques, qui surviennent quand les gouverneurs acceptent les dénonciations. C'est ainsi qu'Ignace d'Antioche sera livré au lion dans le Colisée sous Trajan. Alors on connaît bien Ignace d'Antioche puisqu'il a écrit des lettres sur le bateau qui l'emmenait à Rome, où il expliquait qu'il ne fallait surtout pas que ses frères se mobilisent pour essayer de le sauver et qu'il voulait être sous la dent des lions comme un froment et il offre sa vie en une forme de sacrifice eucharistique. Il y a aussi des martyrs sous différents empereurs, sous Adrien, sous Antonin le Pieux, alors plusieurs papes, Télesphore, Hygin, Pie, Alexandre. À partir de Marc Aurèle, on recherche des boucs émissaires parce que l'Empire connaît quelques difficultés avec des invasions de Quad, de Marcoman et puis la peste. En 165 de notre ère, le préfet de Rome, qui s'appelait Rusticus, condamne à mort l'apologiste Justin, donc un grand auteur chrétien. En Orient, plusieurs évêques sont condamnés. Rappelons leurs noms, Publius d'Athènes, Sagaris de Laodicée, Traséus de Ménie ou le célèbre Polycarpe de Smyrne qui est brûlé vif le 13 février 166 au nom du Christ. À Lyon, une manifestation populaire est à l'origine des martyrs du 1er août 177 dans persécution dans laquelle périt Blandine. En Afrique, sous Commode, on a différents martyrs, Scylum ou encore le sénateur Apollonius. C'est à ce moment-là qu'il faut évoquer l'édit de 202. Au début de la dynastie des Sévères, qui commence en 193, il y a un certain apaisement, les épouses des empereurs étant assez ouvertes aux cultes orientaux. Mais l'empereur Septime Sévère vient en Palestine et s'inquiète des mouvements messianiques qui agitent le pays. Et en 202, il va promulguer un édit interdisant strictement le prosélytisme juif et chrétien. Et c'est donc la première fois que l'État romain promulgue une loi explicitement contre les chrétiens. Il s'agit ici uniquement d'empêcher la diffusion de leurs croyances et de refuser de leur accorder un statut juridique. Les persécutions consécutives concernent donc surtout les néophytes, les catéchumènes et les catéchistes. C'est logique. Il s'agit donc d'empêcher les conversions. Alors, à Carthage, il y a des mouvements, le peuple détruit les sépultures chrétiennes et il va y avoir des martyrs. Dans des jeux offerts en l'honneur de l'empereur Geta le 7 mars 203, Saturus, qui était catéchiste, Perpétue, qui était néophyte, jeune accouchée, et Félicité, son esclave, encore enceinte, avec des compagnons, ils sont donc morts dans des jeux. Donc évidemment, dans le canon romain, on fait mémoire, vous le savez, hein, de tous ces saints des premiers siècles, des saints de l'église de Rome ou d'autres églises, des premiers siècles, hein, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Comé, Damien, etc. Voilà, ils ont tous un nom, une histoire, et ils ont tous donné leur vie, qu'ils ont préféré sacrifier plutôt que de renier le Christ. Cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres martyrs selon la procédure antérieure, c'est-à-dire la pétition. C'est ce qui est arrivé à Irénée de Lyon. Après Septime Sévère, les cas vont se raréfier, et c'est le début d'une certaine paix de l'Église jusqu'au milieu du IIIe siècle. Au total, le christianisme est perçu comme une superstition dangereuse, absurde, déraisonnable, et on laisse aux chrétiens la paix à condition d'obéir à l'empereur. Disons maintenant quelques mots du judéo-christianisme, très important. Le judéo-christianisme va finir par disparaître. Et justement, il faut un peu se mettre au point là-dessus. D'abord, il faut dire que les révoltes juives ont continué après celles de 66-73. Il y en a une entre 112 et 115 qui a touché par définition la diaspora, du côté de Chypre, de la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte et de la Cyrénaïque. Les juifs sont d'ailleurs accusés d'avoir commis des atrocités et d'avoir planté un coup de poignard dans le dos de l'Empire pendant que les légions romaines étaient en train d'affronter les Parthes. Et donc la répression sous Trajan est absolument terrible. Alors à la romaine, en 135, il y aura un massacre général à l'issue d'un autre soulèvement aussi, par Simon Bar Kokhba, nouveau messie. Jérusalem va être rasée, reconstruite par Adrien, et va changer de nom. Elle va devenir Aelia Capitolina. La population est dispersée, et la Palestine reçoit une population nouvelle de Grecs orientaux. Cette fois-ci, la diaspora est définitive, et il y a un authentique repli sur les communautés rabbiniques. Et comme les choses s'apaisent, eh bien, le judaïsme retrouve le statut qu'il avait auparavant dans l'Empire romain, le statut de religio licita. Ils sont tolérés dans l'Empire, puisqu'ils vénèrent le dieu de leur père, comme on avait dit. Vous voyez ? Même s'il y a des petites exceptions, ils sont dispensés, par exemple, du culte à l'empereur. Hein, ils respectent le mos maiorum, hein, la coutume des ancêtres. Ça, c'est pour les juifs. Mais du côté des judéo-chrétiens, on a une évolution qui va prendre des tendances sectaires. D'abord, il y a des églises chrétiennes de langue syro-araméenne qui continuent à exister, qui existent encore, évidemment. Hein, ce qu'on appelle les syriaques, ou chrétiens d'Orient, enfin, faut faire le tri, mais voilà, soyons simplifiants. On a des communautés juives, et puis des groupes judéo-chrétiens dans l'Orient parthe, du côté d'Utique, de l'Euphrate, plus à l'est, plus au sud. En Mésopotamie en particulier, il y a toute une effervescence religieuse. Il faut remarquer l'activité dans certaines cités, comme Pella ou surtout Petra, et puis au nord de l'Arabie. On a une région qui devient le refuge des exclus, et tout particulièrement des judéo-chrétiens, qui s'isolent petit à petit de la grande église, et qui, pour certains d'entre eux, vont finir par former des sectes dont on a conservé le nom et des éléments d'histoire, les Ébionites, qui reconnaissent en Jésus un messie et un prophète, mais pas forcément le Fils de Dieu, les Elkassaïtes, qui reconnaissent l'autorité de Jésus et qui pratiquent les observances juives, et qui vont même influencer le prophète Mani, dont je parlerai la prochaine fois, et puis les Nazoréens, qui s'appuie sur un évangile rédigé en araméen,
et qui acceptent parmi eux des non-juifs, donc des Grecs souvent, qui en restent à la notion d'un Jésus-Messie accomplissant le geste de Dieu sur terre, mais certainement pas un fils de Dieu. Alors, les historiens, notamment des gens qui sont dans la pièce à côté, se sont interrogés sur ce que sont devenus les judéo-chrétiens, et notamment ceux qui ont fini par former des espèces de sectes, qui ne voyant en Jésus qu'un sauveur politique et pas religieux. Eh bien, ils ont continué à exister au 4e, 5e et 6e siècle, entre l'Empire romain et l'Iran de la dynastie sassanide. Ils sont pénétrés du côté de l'Arabie et du Yémen, et on a perdu leurs traces après le triomphe de l'islam. Et les derniers résultats de la recherche semblent privilégier l'hypothèse expliquant leur disparition par une postérité inattendue qui est l'islam. Voilà. Donc là, je vous renvoie à Olaf, qui est dans la pièce d'à côté, et à un certain nombre de références que j'ai mis dans le polycopier, si vous voulez les avoir. Références sur Internet, références fiables. Pour conclure sur ce deuxième siècle, au deuxième siècle, on a donc un siècle plutôt de paix, j'allais dire de bonheur, dans l'Empire romain, mais qui est aussi un siècle de recherche religieuse. Et dans ce foisonnement religieux, s'est glissé le christianisme. Les martyrs du deuxième siècle ont d'ailleurs eu un effet contraire au but attendu, puisque, loin de bloquer le phénomène, les conversions se multiplient au rythme des martyrs, comme disait Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et il y a tout un contraste entre le comportement non violent des chrétiens devant les persécutions et les révoltes juives qui vont accentuer encore, si cela était nécessaire, l'originalité du phénomène chrétien. Alors, pour finir, je vous propose quelques remarques sur les causes du succès du christianisme. On a bien vu que le contexte était important, indépendamment du fond. La civilisation romaine, civilisation du bonheur, est travaillée au IIe siècle par une angoisse existentielle et va favoriser paradoxalement le succès des chrétiens, malgré la persécution qu'ils subissent. Que reproche-t-on aux chrétiens ? Des tas de choses. On leur reproche d'abord le crime de nouveauté, je pense que vous l'avez compris, puisqu'ils ne pratiquent pas, aux yeux des Romains, le culte des dieux ancestraux. Ce culte, c'est la base de l'équilibre politique et social. Ce sont les dieux qui donnent leur paix à ceux qui les vénèrent. Et donc, comme on considère que les chrétiens ne respectent pas la coutume des ancêtres, eh bien, ils remettent en cause l'équilibre du monde, ils sont coupables d'impiété, ils sont objets de scandale, ils ne sacrifient pas à l'empereur, ils n'ont ni racine, ni patrie, ni statut politique, ils commettent un crime de lèse-majesté en ne sacrifiant pas, ils remettent en cause l'ordre du monde. Et donc, quelque part, on a face à face l'homme devenu Dieu, l'empereur, le Divus, face au Dieu fait homme, ou le Pontifex Maximus face au Fils de l'homme. Voilà, le crime de nouveauté. On peut aborder les choses de façon voisine en parlant de l'athéisme des chrétiens. Ces gens sont accusés d'être athées. Ils vénèrent aucun des dieux des Romains. On ne comprend pas qui est le dieu qu'ils vénèrent, en général. Et en plus, ils sont pas sortables. Ils refusent d'assister aux cérémonies païennes, aux spectacles du théâtre. Pourquoi ? Parce qu'on met en scène les mythes païens, et pour les chrétiens, ça, c'est des fariboles scandaleuses. Ils refusent d'assister aux jeux même. Pourquoi ? Parce que le public participe au meurtre. Donc ils ne veulent pas être complices de meurtre, des gladiateurs. Ils refusent, et puis il n'y a aucune complaisance dans le fait de voir des gens dévorés par les bêtes sauvages. Ils refusent les sacerdoces municipaux, ils évitent l'armée. On les dit qu'ils nourrissent une haine du genre humain, la formule est fréquente. Et donc, évidemment, dès que ça ne va pas, ils vont servir de bouc émissaire, ce qui est assez étonnant, puisque c'est une expression qui vient du judaïsme. Alors, on a un mécanisme classique, on diffuse des calomnies sur eux dans les milieux populaires, on en a conservé des traces. Ils se livreraient à des actes abominables, ils adoreraient une tête d'âne, on a même retrouvé un graffiti, un tel a tort son dieu, et puis on voit un âne crucifié. Ils commettraient des meurtres d'enfants qu'ils dévoreraient, ils feraient des orgies incestueuses, j'en passe et des meilleurs. Et donc ils vont servir de bouc émissaire, dont la mort permettra de résoudre temporairement les tensions internes d'une société. Je vous renvoie aux travaux de René Girard, sur la violence et le sacré. Et quelque part, d'ailleurs, les martyrs chrétiens ont pris le relais des sacrifices humains. Mais force est de constater que la paix ne dure pas. Hein? Et on l'a dit, le sang des martyrs est plutôt semence de chrétiens. En plus, les chrétiens, on leur reproche beaucoup de choses, mais ils ruinent beaucoup des convictions des Romains. Par exemple, ils ruinent les mythes. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais les mythes sont des récits explicatifs sur lesquels repose l'essentiel du paganisme. Et le mythe de base du culte impérial, en particulier, c'est la providence des dieux. L'empereur est dispensateur de paix, hein, on lui rend un culte d'ailleurs. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que l'empire se renouvelle quand le sang d'un dirigeant assassiné coule. Eh bien, les chrétiens dévoilent un peu ce qu'il y a derrière ce phénomène. Ils révèlent que les dieux ont soif, les apologistes le disent, hein, et que le sang des empereurs nourrit la paix romaine en réalité. Le mythe du culte impérial est ainsi vidé, il repose en fait sur la violence. Les chrétiens démontent même toute la mythologie païenne en démontrant que chaque mythe est un récit créateur de violence et fondé par la violence. C'est ainsi que Saturne dévore ses enfants, Apollon viole et tue les femmes qu'il aime, enfin qu'il aime à sa façon, il perce les cyclopes de ses flèches, il massacre les enfants de Niobé, il écorche vif le satyre Marsyas, il fait étouffer par deux serpents le prêtre troyen Laocoon, Orphée est mis en pièces par les Ménades pour avoir exclu les femmes de la célébration des mystères. Bacchus fait dévorer aux Bacchantes ou aux Ménades le roi Panthée qui montait sur son arbre avait surpris leur cérémonie. Sa propre femme le dévore, n'est-ce pas? Ses fidèles célèbrent le sacrifice du taureau dont ils mangent la viande crue, dont elle mange. Osiris, pour changer d'univers, est découpé en morceaux, dispersé par son frère Seth, charmante famille. À chaque fois, la violence est fondatrice d'un nouvel et fragile équilibre, et la mythologie païenne est ainsi, à plus ou moins long terme, frappée d'impuissance explicative. Les mythes sont vidés de leur contenu salvifique violent par une croyance en un sauveur pacifique, qui est le Christ. On pourrait dire aussi que les chrétiens vident les rituels de leur sens. Hein, on a vu que la religion romaine, c'était une technique d'obtention du pouvoir divin, le do ut des. Eh bien, les chrétiens vont montrer que tout cela n'est pas très glorieux. Hein. Je vais accélérer un petit peu. Les chrétiens, ils apportent une authentique nouveauté sur bien des points, et insistons sur un point tout à fait intéressant, c'est le rapport au corps et au sexe. La conception gréco-romaine de l'amour est complètement différente de celle des chrétiens. Regardons ce que bien des païens disent des femmes. Je n'ai pas dit tous, hein, mais l'idée est en tout cas très répandue. Galien, médecin de Marc Aurèle, écrit ceci. « Leur mépris de la mort est évident, ainsi que leur retenue sexuelle, même chez les femmes. » C'est un petit peu sexiste. « Pour les Romains, il faut, qui se font une drôle d'idée des femmes, il faut marier les femmes le plus tôt possible à cause de la hâte de leur désir, écrit-il. Hein, il y a une persuasion de l'irrépressibilité du désir féminin. » Et donc, on a une vision de la femme qui est essentiellement matrone, mater, donc dans sa fonction d'engendrement, qui n'est valorisée que sous cet aspect. Sa chasteté n'est qu'une absence de plaisir. À la limite, elle ne peut même pas être amoureuse. Alors, évidemment, on a plein de cas qui viennent contredire cela, mais voilà, l'idée générale, c'est qu'on se fait une idée d'abord du sexe et de l'amour pas forcément encourageante et assez pessimiste. Par ailleurs, on assiste dans le paganisme à toute une divinisation du sexe à laquelle sont associés différents dieux, Vénus, Cérès, Proserpine, Isis, les déesses mères de l'Orient, Bobo, Priap, qui est connu aussi sous le nom de Pan, le grand Pan. Voilà, le sexe qui est aussi lié, qui est aussi perçu dans un contact avec la mort, dans un contexte de violence. Voilà. Donc on a une vision assez pessimiste de tout cela dans le paganisme, alors que le christianisme, lui, va porter des affirmations neuves. Il va se mettre à parler d'alliance, d'union matrimoniale entre Dieu et l'humanité, mariage raté avec le péché originel, mais mariage restauré. Et donc l'incarnation et la rédemption se font sur un mode nuptial. La nouvelle alliance est un mariage. Et on va passer de la fureur érotique destructrice à l'amour conjugal, mutuel et fidèle. Voilà. On a la procréation, bien sûr, mais on a aussi une relation, un langage de communion et de communication entre deux personnes. Voilà. Et donc, on va avoir quelque chose de complètement inversé. Le rapport au corps va être inversé. On a évoqué le mépris de l'aréopage athénien quand saint Paul s'est mis à parler de résurrection de la chair. Pour les Romains, le corps humain n'est qu'une guenille dont il faut se débarrasser à la mort. On voit l'influence un peu dualiste aussi, sans doute, derrière. Afin que l'âme immortelle puisse gagner les séjours éternels. Et que la chair puisse servir à autre chose que la reproduction avant de disparaître est impensable. Les chrétiens, eux, ont un tout autre discours, en particulier les apologistes, dont Justin ou Athénagore. Et ils insistent sur la vie affective. Ils expliquent que le désir est maîtrisable. Et ils vont même parvenir à faire l'éloge de la virginité. Alors ça, il y a bien des païens que ça rend complètement fou. En tout cas, la chair et l'âme sont sauvées. On passe donc à une vision beaucoup plus optimiste d'une sexualité source de vie. Alors, tout cela n'empêche pas les persécutions des chrétiens. Alors, pour finir, je voudrais dire quelques mots sur le rôle des apologistes qui sont là pour convaincre les empereurs de la loyauté des chrétiens et de la vérité du christianisme. On a à la fois des ouvrages défensifs, et missionnaires qui usent de la rhétorique et de la connaissance de la philosophie grecque. Alors, les grands noms du 1er et 2e siècle, c'est Justin, Tertullien, avec son apologétique, ou l'épître à Diognète, qui est une apologie en grec, qui explique que les chrétiens sont du monde sans en être. En tout cas, on voit à travers ses premières œuvres à quel point le christianisme est capable de se couler dans le moule grec et de s'héléniser. Et donc, il montre qu'il n'y a pas de contradiction entre la pensée philosophique et la foi chrétienne. Beaucoup plus dangereuse, on l'avait dit la dernière fois, est la gnose qui s'habille du discours chrétien pour dire un message qui lui est complètement étranger. Mais plus globalement, la question de la gnose pose le problème de l'orthodoxie et de l'hérésie. Comment authentifier la vérité quand quelqu'un dit qu'il promeut un authentique christianisme, quand un gnostique le dit ? Et donc va se poser la question de la vérité, de l'autorité de Rome, surtout à Rome, parce qu'à Rome convergent toutes les sectes et en même temps toutes les grandes figures chrétiennes. Polycarpe, Irénée, puis des grands papes du IIe siècle, puis à Nicée, Sauter ou Éleuther ou encore Victor. Victor, premier pape latin. Va se poser aussi le problème de la tradition. Hein, comment interpréter les choses ? Et les premiers auteurs vont montrer que l'écriture et la tradition ne font qu'un, parce que la seconde n'est que l'explicitation de la première. Et surtout, vont apparaître à la philosophie chrétienne et la philosophie. À l'aide de la philosophie, va apparaître pour la première fois une science du raisonnement sur Dieu. On se pose la question, qu'est-ce que la vérité ? Pilate l'avait posée ironiquement à Jésus. Hein ? Mais Jésus répond, enfin, pas directement à Pilate, mais Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc, il y a ce choc qui est que la vérité n'est plus une chose, mais quelqu'un. Et donc les catégories mentales des Grecs vont être bouleversées. Toutes sortes d'hérésies vont virer d'ailleurs éprouver la foi chrétienne. Je vous en passe le nom, elles portent des noms très alambiqués. Et j'insiste sur une dernière figure pour montrer qu'on atteint une certaine maturité déjà, fin 2e siècle, début 3e, avec Irénée de Lyon, qui est mort vers 203. Qui nous vient de Smyrne, qui a connu Polycarpe, qui a connu Jean, qui a donc connu un témoin des apôtres, et qui est donc l'héritier d'une tradition orale directe. Et il peut déjà dire, comme dira plus tard saint Augustin, « Nous croyons en celui en qui ils ont cru ». Il a été prêtre à Lyon, évêque, son œuvre est écrite en grec, il nous reste la traduction latine de son Adversus Aeresses, contre les hérésies, qu'on trouve facilement, et puis la démonstration de la prédiction apostolique. Et donc, il montre que tous les mouvements de l'histoire du salut annoncés par les Écritures, initiés par Dieu, parachevés par Jésus, il va montrer quel est le projet de Dieu jusqu'à la divinisation de l'homme malgré le péché d'Adam, à travers la célèbre formule « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » On a donc avec Irénée une vision optimiste du salut de la chair par le Christ, une influence johannique certainement, et surtout un exposé général de la foi marqué par une unité profonde. Il n'y a qu'un seul et unique dessein de Dieu, le salut de l'homme dans toutes ses composantes, et tout est récapitulé dans la personne du Christ. Et donc on a là une des plus grandes synthèses théologiques avant les pères de l'Église au IVe siècle, réalisée dans un contact étroit avec les origines chrétiennes. Voilà. Et on voit bien qu'avec des auteurs comme ça, on a une tradition avec un grand T qui est désormais bien fondée. Alors, pour reprendre la question initiale et pour conclure, est-ce qu'on a affaire à une secte qui a réussi ? Faut s'entendre sur les termes. Si par secte, vous entendez un groupe fermé qui exerce une emprise très lourde sur ses membres, je ne suis pas bien certain que le christianisme réponde à cette définition, dans la mesure où l'évangélisation se fait de manière ouverte, dans la mesure où on entre, où on peut s'y sortir de l'Église. Donc ça ne correspond pas tout à fait. Si vous prenez secte comme petit groupe, oui, bien sûr. Mais alors, on a aussi un élément qui est porteur d'un énorme renouveau. Alors d'un côté, on a une grande ferveur évangélisatrice, et de l'autre, on a un renouveau tel qu'il vient proposer ouvertement une alternative au paganisme en définissant son orthodoxie face aux hérésies. Avec l'autorité des évêques et singulièrement celle de Rome, et avec la théologie qui prend son essor en faisant appel aux sources de la révélation. On a donc quelque chose qui vient complètement remettre en cause le paganisme, pas simplement un phénomène marginal. Plutarque avait écrit quelque part « Le grand Pan est mort ». Oui, peut-être qu'il est en train de mourir, si dans Pan on veut bien voir le paganisme, comme dirait malicieusement l'historien Michel Rouche, de l'ouvrage duquel j'ai tiré mon exposé, c'est la panique. Je vous remercie.